brossé d'ailes, a d'abord essayé de concilier les factions catholiques et protestantes dans le royaume, et notamment à la cour. Et il y a plusieurs tentatives de conciliation, notamment le fameux colloque de Poissy en 1561, qui visait à permettre de trouver une sorte de moyen terme théologique entre catholicisme et protestantisme, catholicisme et calvinisme, pour éviter le déclenchement de guerres civiles que l'on sentait inéluctable. Et c'est l'échec, finalement, de cette tentative qui aboutit au déclenchement de la première guerre civile, puisque le massacre de Vassy, qui intervient en mars 1562, suit de peu de temps, en fait, le premier édit de pacification, l'édit de janvier 1562, qui était l'ultime tentative de pacification lancée par la couronne.
Est-ce que, justement, c'est j'allais dire, la première idée reçue à mettre à bas, si je puis dire, c'est qu'on, bien évidemment, il y a les protestants, les calvinistes d'un côté, et d'autre côté, les ligueurs, les catholiques ligueurs. Est-ce qu'il y a une troisième voie, ou même cette vision des trois voies reste simpliste ?
Non, cette vision des trois voies, elle est relativement pertinente. Alors les ligueurs, ça apparaît un petit peu plus tard, c'est dans la deuxième partie des guerres de religion.
Ce sont les ultra-catholiques, les ligueurs. Le duc de Guise.
Qui sont effectivement dirigés par la famille de Guise. Ce sont des catholiques qui sont favorables à une solution violente de sortie de la crise religieuse, et notamment qui refusent ce point que Catherine de Médicis a apporté et qu'on appelle la coexistence religieuse. Ce que Catherine de Médicis apporte, qui est une révolution, avec son chancelier Michel de l'Hospital, ce qu'elle apporte dans les années 1560, c'est cette proposition de vivre ensemble en frères, amis et concitoyens, qui est une révolution. C'est-à-dire que, pour la première fois, un roi de France, son fils Charles IX, dit « l'hérétique peut être citoyen ». Jusqu'à présent, dans le serment du roi de France, on doit exterminer l'hérétique. Catherine de Médicis dit « bien non ». Il a beau être hérétique, il est citoyen. Et donc on a dans la proposition de Catherine de Médicis ce qu'on appelle une autonomisation de la raison politique. D'un côté, l'État s'occupe de citoyens, de l'autre, les églises s'occupent du salut des fidèles. Et c'est deux domaines qui ne sont évidemment pas séparés, on n'est pas encore dans la séparation de l'Église et de l'État, mais on est dans un processus d'autonomisation. Et ce processus, il est enclenché par Catherine de Médicis dans les années 1560.
Catherine de Médicis a une place vraiment particulière dans la bande dessinée. Vous la réhabilitez, vous la changez, d'ailleurs vous ne la montrez pas d'un certain âge, vous la montrez jeune, on a tendance à opposer les deux figurations.
Oui, c'est vrai que Catherine de Médicis, elle a été discréditée par l'historiographie pour plein de raisons. Je pense en partie à la misogynie, c'est-à-dire qu'en France, on a l'habitude d'avoir des rois, ici on a une régente puissante, une régente intelligente, alors on va la caricaturer. Pour des raisons aussi de xénophobie, Catherine de Médicis, elle vient de Florence, même si elle est à moitié française, de par sa mère, et donc elle a contribué à grossir cette légende noire. En réalité, Catherine de Médicis, et c'est Denis Crouzet qui l'a montré, Catherine de Médicis, c'est une femme de paix. Catherine de Médicis, elle est en faveur d'une religion qu'on appelle l'évangélisme, qui imagine un Dieu bon, un Dieu qui ne punit pas.
Miséricordieux,
voilà. L'opposé du type de catholicisme ligueur, qui au contraire est un catholicisme beaucoup plus angoissé et qui va tenter de sortir de cette angoisse religieuse par la violence. C'est-à-dire on va se débarrasser des hérétiques pour gagner le salut. Catherine de Médicis n'est pas dans cette perspective. Elle est dans un catholicisme qui est beaucoup plus bienveillant et beaucoup moins angoissé vis-à-vis de la question du salut.
Je reviens avec Dessy sur la durée du conflit. Comment expliquer au fond que ce conflit dure tant de temps, une guerre civile de 36 ans, c'est absolument énorme.
Les catholiques intransigeants, on les appelait aussi les catholiques zélés, et la monarchie française, d'une manière générale, avait peut-être pensé que venir à bout de la minorité huguenote serait une chose aisée. Et donc, la grande surprise pour eux a été de voir la résistance formidable opposée par les protestants français à la puissance militaire catholique. Seulement 10% de la population, mais parmi ces 10%, des membres de la noblesse française parmi les plus redoutables, parmi les mieux enracinés, qui pouvaient mobiliser des forces considérables, et puis aussi des alliés à l'étranger, les protestants allemands, la reine d'Angleterre, les cantons suisses évangéliques, qui ont apporté leur concours aux protestants français, qui leur ont permis de résister au-delà de toute espérance. Ce qui fait qu'à chacune des guerres civiles s'est conclue plus ou moins par un match nul, qui, face à l'épuisement des forces, a obligé le roi de France à chaque fois à concéder un édit de pacification. C'est cette résistance exceptionnelle qui explique la durée du conflit.
Il y a la place de l'étranger est importante. Vous parlez de la Suisse, il y a aussi l'Espagne.
Alors oui, l'Espagne, c'est sans doute l'acteur le plus puissant de ce conflit. Et pendant très longtemps, on n'en a pas parlé parce qu'on faisait de l'histoire dans un cadre strictement national. Or, le roi d'Espagne, Philippe II, arrose de deniers, et notamment les catholiques zélés, qu'on appelle les ligueurs, pour, alors bien sûr pour des raisons religieuses. Le roi d'Espagne est un fervent catholique et il déteste la solution proposée par Catherine de Médicis de la coexistence religieuse. Et puis aussi pour des raisons stratégiques, c'est-à-dire que tant que les Français s'entretuent, eh bien, il n'interfère pas dans les affaires espagnoles. C'est-à-dire c'est de la diplomatie, si vous voulez. C'est de la diplomatie. Déstabiliser l'adversaire, c'est toujours faire les affaires de l'Espagne.
Alors, j'ai commencé cette émission en évoquant le fait majeur qui symbolise en quelque sorte l'obscurantisme de l'Église, c'est la Saint-Barthélemy. Qu'est-ce qui s'est passé ce 24 août 1572 ? Il faut d'ailleurs commencer peut-être un peu avant, au 22 août, et un peu avant avec le mariage, le fameux mariage de la reine Margot.
C'est ça, il faut recontextualiser un petit peu. Catherine de Médicis, toujours dans cette perspective d'apaisement, d'établissement de la coexistence pacifique, voulait enraciner la paix en concluant un mariage entre sa fille, Marguerite de Valois, et le jeune prince de Navarre, Henri de Navarre, le fils de Jeanne d'Albret. Chef du parti protestant, et la conclusion de l'accord de mariage entre les deux reines, au terme de longues négociations, aboutit à la célébration du mariage à Paris, le 18 août 1572. Et pour l'occasion, nombre de protestants sont venus à Paris, l'élite de la noblesse protestante est présente, et quelques jours après, le 22 août, Gaspard de Coligny, l'amiral de Coligny, qui siégeait au Conseil du Roi, est victime d'un attentat alors qu'il sort du Louvre. Et cet attentat ne le tue pas, le blesse grièvement. Il est transporté dans son logis. Le roi de France, Charles IX, vient le visiter, l'assure de tout son soutien. Et de manière qui est demeurée longtemps incompréhensible aux yeux des historiens, 24 heures plus tard, dans la nuit du 23 au 24 août, ce même roi, Charles IX, donne l'ordre d'exécuter Coligny et les chefs protestants qui étaient logés à Paris. Et ce premier massacre, en quelque sorte, cette exécution des chefs protestants, est suivi par un déchaînement de violence, un massacre plus généralisé que la population parisienne exerce, très catholique, parce que Paris était une ville vraiment très, très fortement catholique, que la population parisienne exerce sur les Parisiens protestants. Mmh. Et cela cause plusieurs milliers de morts.
Mmh. Mais pourquoi, en fait, le roi, en quelque sorte, s'est déjugé ? Il a une responsabilité, il a la responsabilité du massacre ?
Alors, il faut distinguer deux choses. Il y a l'exécution des chefs protestants et le massacre. Le massacre massif, en lui-même, c'est une réaction violente de la population parisienne qui est hors de contrôle.
Oui.
Donc ça, il faut l'oublier dans l'examen des responsabilités. La véritable question se pose pour l'ordre donné d'exécuter les chefs protestants. Voilà. Et c'est autour de cette question-là que l'historiographie s'est focalisée et que les débats ont eu lieu. Pourquoi a-t-on ordonné le massacre des chefs protestants ? Qui l'a fait ? Est-ce que Catherine de Médicis
a joué
ce rôle maléfique qui lui a été longtemps attribué ? D'ailleurs, que les protestants français lui ont attribué, et la racine de la légende noire de Catherine de Médicis, ce sont les écrits huguenots immédiatement postérieurs à la Saint-Barthélemy. Ils l'ont accusé, en fait, d'avoir manigancé de longue date le massacre des chefs protestants en attirant dans un piège la noblesse protestante, en la faisant venir à Paris pour célébrer un mariage qui, en fait, n'était pas du tout un mariage de paix, mais qui était un piège pour exterminer l'élite nobiliaire huguenote.
C'est une idée qui est reprise par Alexandre Dumas, qui est reprise par le film de Chéreau, la Reine Margot, et c'est une thèse, au fond, dont il faut faire litière.
Voilà, il faut oublier cette interprétation qui effectivement a été largement popularisée par les écrits d'Alexandre Dumas. Et donc on voit que jusque à très récemment, elle a encore été perpétuée par le film Patrice Chéreau, tout simplement parce que des études ont été conduites. On parlait de Denis Crouzet tout à l'heure, qui a travaillé sur cette question. Arlette Joanna, plus récemment aussi, a réfléchi aux véritables causes de l'exécution des chefs. Et en fait, on en est arrivé à la conclusion qu'aujourd'hui, on peut considérer comme tout à fait crédible que c'est la peur d'un complot protestant qui a poussé Charles IX dans une forme de défense, en quelque sorte, à ordonner l'exécution préventive des chefs protestants cette nuit du 23 au 24 août 1572. Mais ça aussi, ça s'enracine dans les événements des années précédentes.
Vous voulez réagir,
Oui, je pense que ce qu'on peut mettre à charge de la couronne, c'est peut-être cette maladresse ou cette inconséquence qui est d'imaginer qu'en donnant l'ordre de tuer peut-être une vingtaine de chefs protestants, il n'y aura pas de réaction dans la rue parisienne. Et ça, pour le coup, il y a un aveuglement ici de la part de Catherine de Médicis. On est d'accord, il n'y a pas de préméditation du mariage, du massacre, pardon, il y a une préméditation du mariage, mais pas du massacre. Là-dessus, on est d'accord. En revanche, est-ce que Catherine de Médicis et ce Charles IX pouvaient imaginer qu'en faisant tuer 20 chefs protestants, ils n'allaient pas déclencher dans la rue un massacre? Ça, on peut dire qu'il y a pour le moins une maladresse, parce qu'on sait très bien que les Parisiens, majoritairement, sont très catholiques, qu'ils détestent leurs voisins huguenots, et que quand ils ont vu sortir du Louvre des soldats pour aller massacrer Coligny, ils ont pu se dire, ils ont pu imaginer que le roi ordonnait de passer par les armes tous les protestants. Puis le deuxième point, c'est quand même que les tueurs, on les connaît, les tueurs, c'est pas le peuple parisien, c'est des bons bourgeois de Paris, c'est des miliciens, c'est-à-dire c'est des capitaines, mais qui sont des bons commerçants parisiens, on les connaît, il y en a un qui s'appelle Thomas Croisier. Ces gens-là n'ont jamais été ni poursuivis toute la suite de leur vie, après 1572, pendant 20 ans, ce sont des notables parisiens qui sont récompensés par la couronne et par Catherine de Médicis. Donc la légende noire, elle est fausse dans l'idée de la préméditation, mais le massacre, pour le moins, n'a jamais été jugé ni puni par la couronne.
Mais si on vous entend bien, là, on n'est pas vraiment dans un domaine religieux, en soi, on est dans un domaine politique. Vous parlez de peur d'un complot, donc on imagine que ce complot viserait, au fond, à renverser la couronne.
En fait, ce qu'on appelle les guerres de religion, ce sont des guerres civiles qui ont très vite pris une forte dimension politique. Une forte dimension politique parce que, aux yeux de la monarchie, la contestation de la religion du roi pouvait aboutir finalement très rapidement à la contestation du pouvoir royal. Ne pas adopter la même religion que le roi, c'était en quelque sorte se poser en séditieux. C'est ainsi que François Ier l'avait présenté dès 1540. Dans une ordonnance de 1540, François Ier avait assimilé hérésie et sédition. Ne pas être catholique comme le roi, c'était être un mauvais sujet. Et cette image a perduré. Et les événements des premières guerres, les prises d'armes des protestants, ont contribué à enraciner dans l'imaginaire collectif, mais aussi dans l'esprit du roi, et notamment de Charles IX, il y a notamment un épisode très important, ce qu'on appelle la surprise de Meaux en 1567, qui est une tentative de la part de la noblesse protestante de s'approcher du roi afin de le convaincre de se débarrasser des Guises, des conseillers catholiques, et pour ce faire, il prévoyait d'intervenir militairement à Meaux. Charles IX a dû fuir dans la nuit sa résidence de Meaux pour rentrer à Paris dans la panique avec la cour. Il en est resté profondément humilié. Et lorsqu'en 1572, à la suite de la tentative d'assassinat de Coligny, les protestants présents à Paris en masse se sont agités, ont demandé justice, ont demandé au roi de punir le coupable, qu'ils estimaient être le duc de Guise, Charles IX a eu une réminiscence, en quelque sorte, de la surprise de Meaux, et il a eu peur d'une entreprise militaire de la part des protestants à l'intérieur même des murs de la capitale. Et c'est cette peur qui est aussi une peur de menace de son pouvoir politique, qui l'a conduit à ordonner l'exécution des chefs protestants.
Mais pourtant, vous le disiez tout à l'heure, Coligny fait partie du Conseil du Roi. Oui, quelle était la place des protestants dans ce conseil? Quelle était la place des protestants de manière générale dans les structures du pouvoir de cette époque?
Les protestants jouent un grand rôle. Coligny est amiral de France, donc c'est un grand officier de la couronne, c'est l'un des personnages les plus éminents de l'État. Son frère, qui est décédé en 1572 puisqu'il est mort en 1569, François d'Andelot était colonel général de l'infanterie française, donc lui aussi avait une charge très importante. Et puis il ne faut pas oublier qu'à la tête du parti huguenot se trouvaient des membres de la lignée royale, puisque les chefs de la maison de Bourbon, d'abord le prince de Condé, Louis Ier de Condé, qui était premier prince du sang, était le chef du parti huguenot, et puis à sa mort, à la bataille de Jarnac, c'est son fils, Henri de Condé, prince du sang, et son cousin, le cousin du jeune Henri de Condé, Henri de Navarre, le fils de Jeanne d'Albret, qui devait donc épouser Marguerite de Valois peu avant le massacre de la Saint-Barthélemy, qui sont eux aussi les membres les plus éminents de la dynastie des Bourbons, et qui prennent la tête du parti. Donc il y a une véritable puissance politique, un rôle politique majeur, joué par les chefs du parti protestant, ce qui leur confère une puissance considérable.
Alors, vous présentez bien, vous, Jérémy Foy, dans la BD, le fait que ce que vous distinguez, d'ailleurs, il y a les chefs politiques et puis il y a ce que font les Parisiens. Et donc, vous montrez des petites gens, des marchands qui sont massacrés. Et j'irai même plus loin, vous avez une... il n'y a pas que Paris, il y a aussi dans les provinces des massacres.
Alors oui, Paris c'est le massacre le plus important, puis c'est le premier, peut-être 3000 morts, et puis très rapidement le massacre s'étend au fur et à mesure que la nouvelle arrive en province. Alors on a un massacre très important à Orléans à la fin du mois d'août, on a un massacre très important à Lyon aussi à la fin du mois d'août. Chaque fois que la nouvelle arrive dans une ville, elle est interprétée en fonction des intérêts locaux. À Lyon, par exemple, on emprisonne les protestants. Alors on emprisonne les protestants, pourquoi? Dit-on, pour les protéger. Et puis ce qui va se passer, comme dans beaucoup d'autres villes, comme à Toulouse, eh bien les massacres se jouent aux prisons. C'est-à-dire qu'on va massacrer des gens qui ne peuvent pas se défendre puisqu'ils sont emprisonnés. Donc on a Orléans, Lyon, Toulouse, Rouen... J'en oublie, mais Bordeaux, bien sûr. Le massacre de la Saint-Barthélemy, Michelet l'a dit, ce n'est pas une journée, c'est une saison. C'est-à-dire que pendant très longtemps, ça va durer comme une traînée de poudre et occasionner peut-être, mais là-dessus, les chiffres sont invérifiables. On dit 10 000 morts, mais on ne sait pas vraiment d'où sort ce chiffre.
Est-ce que du côté protestant, il y a aussi des exactions et des massacres qui sont des réponses, ou avant même les massacres de la Saint-Barthélemy, est-ce qu'il y a eu en France des heurts qui ont amené des morts, pour le coup, du côté catholique?
Alors c'est une vraie question que vous soulevez là, la différence entre la violence catholique et la violence protestante. Il ne s'agit pas de déterminer qui sont les bons et les méchants, il s'agit de comprendre pourquoi est-ce qu'on commet des violences. Alors oui, bien sûr, les protestants ont commis des violences, notamment à Nîmes en 1567, il y a un massacre, mais il faut rappeler deux choses. Première chose, les protestants sont beaucoup moins nombreux, donc de manière générale, les rapports de force ne les poussent pas à la violence. Ils sont beaucoup moins nombreux, sauf peut-être dans le sud du royaume. Mais surtout, la différence, elle est vraiment religieuse, et c'est Denis Crouzet qui l'a montré. Les catholiques, quand ils commettent des violences, et notamment lors des massacres, cherchent à se désangoisser. C'est-à-dire que le cœur de ce qui les meut vers la violence, c'est une angoisse eschatologique, c'est-à-dire qui porte sur le moment du jugement dernier. Est-ce que je serai prêt? Est-ce que je serai sauvé? Les catholiques sont violemment angoissés par ceci. Tuer un protestant, tuer un hérétique, c'est faire un geste pour gagner son salut. Eh bien, dans la théologie protestante, ce besoin de désangoissement, il n'existe pas.
Parce qu'il n'y a plus d'angoisse, il n'y a plus l'angoisse du péché.
Et exactement, toute une série de choses disparaissent, et notamment cette idée du jugement dernier. Chez les calvinistes, avec la prédestination, le jugement a déjà eu lieu. Dieu a déjà choisi qui était sauvé. Et que faire pour être sauvé quand on est protestant? Rien, avoir la foi. Donc vous voyez que dans le geste de violence qu'on peut commettre à l'encontre d'un hérétique, d'un côté ça peut vous servir à gagner le paradis, de l'autre ça n'a aucun sens de tuer violemment un catholique quand on est protestant. Je ne dis pas que les protestants sont non violents, bien évidemment ils avaient des armées, ils ont aussi commis des violences, mais qui sont plutôt des violences d'un type militaire lors des combats que des massacres tels que ceux qu'on peut observer à la Saint-Barthélemy ou à Vassy ou à d'autres moments.
Hugues, vous voulez réagir à ce qu'a dit Jérémy ?
Oui, non, j'approuve tout ce que dit Jérémy, mais pendant les premières guerres de religion, on pense par exemple au baron des Adrets. Quand le baron des Adrets, qui était un capitaine huguenot bien célèbre, bien tristement célèbre d'ailleurs dans le Dauphiné, quand il prenait possession d'une ville, bien souvent, il passait les ecclésiastiques au fil de l'épée ou alors il les faisait sauter d'une tour, en étant certain qu'elle était suffisamment haute pour qu'il ne s'en relève pas. Donc même s'il n'y avait pas de massacre de masse, et là je vais dans le même sens que ce que Jérémy vient de présenter, il y a quand même eu par moments des actions assez violentes, et on va dire qu'il n'était pas mu simplement par la motivation militaire, mais qui était simplement dictée par une volonté d'éliminer un clergé qu'on considérait comme corrompu et comme néfaste. Voilà. Donc il y a eu aussi des exactions du côté protestant, même si c'est vrai, elles n'ont pas pris le caractère massif que l'on peut connaître du côté catholique.
La place de l'écrit, on a fait une émission ensemble sur le pouvoir de l'imprimé, sur Storia Voce, la place de l'écrit est importante aussi à cette époque où on ne parle que de violence physique.
Alors non, il y a une très très forte dimension polémique à ces guerres civiles. Donc, évidemment, quand on pense aux guerres, on pense aux affrontements militaires. Il est assez paradoxal de remarquer que ces guerres de religion donnent lieu à un assez petit nombre de vraies batailles. Des vraies batailles rangées entre une armée protestante et une armée catholique, elles sont rares. Parfois, dans une guerre civile, il n'y en a qu'une seule. En revanche, le combat polémique par la plume, l'affrontement par pamphlet interposé entre catholiques et protestants est, lui, extrêmement dense et extrêmement fécond du point de vue de la conceptualisation politique.
Quelles ont été les conséquences du massacre de la Saint-Barthélemy ?
Alors les conséquences du massacre de la Saint-Barthélemy, elles sont très nombreuses. D'un point de vue de la violence, ce que Denis Crouzet a montré, c'est que c'est le dernier massacre des guerres de religion. Après, bien sûr, les combats continuent, les violences, il peut y avoir des rixes, il peut y avoir des morts ici ou là, mais il n'y a plus de massacre. Ce que Denis Crouzet montre, c'est que cet imaginaire angoissé catholique va disparaître après le massacre de la Saint-Barthélemy et la violence catholique va commencer à changer de sens. J'essaie d'expliquer ce point qui est un peu complexe, mais jusqu'en 1572, pour se désangoisser, il faut être violent envers l'autre, le huguenot. À partir de 1572, l'imaginaire catholique va inverser la violence et on va commencer à avoir des processions de flagellants, c'est-à-dire de catholiques qui vont se fouetter, se flageller et tourner vers eux-mêmes la violence. C'est-à-dire qu'il s'agit désormais de se purifier.
Une conversion personnelle. Là.
Conversion personnelle, voilà. Il s'agit d'être soi-même meilleur. On avait l'idée que Dieu avait envoyé les hérétiques et qu'il fallait les punir. Et désormais, à partir de 1572, on se dit « Dieu a envoyé les hérétiques pour nous punir. Et ils disparaîtront quand nous serons meilleurs. » Là, ça, c'est, là, si vous voulez, une des conséquences religieuses. Je laisse Hugues peut-être aborder toutes les conséquences qui peuvent être militaires, diplomatiques, politiques de cet événement qui sont très nombreuses.
Il y a un avant et un après 1572, Hugues Dossy ?
Oui, à plusieurs titres. D'abord, c'est une véritable rupture entre le camp protestant et le roi. Vous savez, il y avait une sorte de mythe qu'avaient élaboré les protestants. Ils pensaient que Charles IX, jeune roi monté sur le trône à l'âge de 10 ans, était ce qu'ils appelaient le nouveau Josias. Nouveau Josias, c'est-à-dire, en faisant allusion au roi biblique, le roi qui ferait basculer le royaume de France du côté de la vraie religion. Donc, ils estimaient que peut-être il ferait passer le royaume de France du côté de la réforme. Et pendant longtemps, ils ont développé toute une théorie autour de cet espoir. Et forcément, en 1572, lorsque Charles IX ordonne l'exécution des chefs protestants, cette théorie s'écroule et cet espoir s'évanouit. Et c'est une sorte de rupture de confiance considérable entre les protestants français et le roi. Et ça, c'est un tournant très important dans le conflit. Et puis, il y en a un autre, c'est que la Saint-Barthélemy marque, en quelque sorte, la disparition d'une première génération de chefs protestants. Avec Coligny qui meurt, c'est le dernier des chefs majeurs de cette première génération de chefs convertis qui s'éteint. Et donc on a une deuxième génération qui a, elle, une autre histoire et qui va aborder les guerres d'une autre manière. Voilà. Et donc c'est vraiment un tournant de ce point de vue-là.
Vous montrez bien, puisque vous évoquez Coligny, il y a toujours les Guises qui sont là et l'importance des Guises qui n'hésitent pas à entrer dans un voilà dans une perspective d'affrontement avec la couronne elle-même.
Alors oui, les Guises, c'est surtout effectivement dans une seconde partie des guerres de religion qui vont rentrer dans un mouvement d'affrontement avec la couronne. Pour diverses raisons, mais pour synthétiser, à partir de 1584, on a le dernier frère d'Henri III, roi de France, qui meurt. À partir de 1584, avec la mort du duc d'Alençon, devenu duc d'Anjou, peu importe, l'héritier de la couronne, c'est Henri IV, enfin, c'est Henri de Navarre. À partir de ce moment-là, les Guises vont se radicaliser dans cette idée qu'il est impossible, inconcevable qu'un hérétique deviennent rois de France. Et à partir de là, notamment parce qu'ils sont aussi financés par l'Espagne, ils vont créer dans de très nombreuses villes françaises des ligues qui vont avoir pour cœur de projet politique et religieux de tout faire pour qu'un hérétique n'arrive jamais sur le trône de France. Alors ils vont se saisir de Paris en 1580.
Henri de Navarre est accusé d'être protestant. Enfin, il est protestant.
Il n'est pas accusé, il est protestant. Voilà. Et effectivement, et une des conséquences de ceci, c'est que Henri de Navarre va comprendre qu'il ne montera jamais sur le trône de France sans se convertir. Et on a quelque chose d'extraordinaire en France. Dans tous les pays d'Europe à la même époque, ce sont les sujets qui se convertissent à la religion de leur prince. En France, on a l'inverse. On a un prince qui se convertit à la religion de ses sujets. 1593, Henri IV comprend qu'il ne montera jamais sur le trône de France sans se convertir et qu'il ne rentrera jamais dans Paris sans être catholique.
Donc c'est une conversion politique, Henri IV ?
C'est une conversion pragmatique, je dirais.
Oui.
Ce qui est un tout petit peu différent. En fait, Henri IV est monté sur le trône donc, en août 1589 et pendant 4 ans, il a essayé de reprendre possession militairement de son royaume. Donc il a remporté des victoires, hein. On connaît la fameuse victoire d'Ivry avec la légende du panache blanc d'Henri IV, hein. Victoire remportée sur les troupes de la Ligue qui était conduite par le duc de Mayenne, qui avait pris la suite de son frère le duc de Guise. Mais finalement ces victoires ne permettaient pas d'avancer de manière satisfaisante et de nombreuses grandes villes du royaume restaient possession de la Ligue, et notamment Paris, devant laquelle Henri IV avait mis un siège célèbre en 1590 sans succès. Et très rapidement, Henri IV a compris qu'il ne prendrait jamais possession de son royaume véritablement sur le plan militaire s'il n'y avait pas un geste de sa part en direction de ces catholiques ligueurs. Et puis il y avait une autre raison qui l'a poussé à se convertir en 1593, c'est que les ligueurs envisageaient de désigner un nouveau roi. Alors, Henri IV était roi par la loi salique, il était roi légitime, mais cette légitimité était contestée par les ligueurs parce qu'il n'était pas catholique, et ils envisageaient de faire désigner l'infante d'Espagne, Isabelle Claire Eugénie, qui était en fait la petite-fille d'Henri II, puisque Élisabeth de Valois, fille d'Henri II, avait épousé le roi d'Espagne Philippe II, et donc il y avait une parenté avec le roi de France. Ils envisageaient donc de faire désigner l'infante d'Espagne comme reine de France et peut-être de lui faire épouser le fils du duc de Guise. C'est une des hypothèses qui était alors en vigueur. Et forcément, à ce moment-là, la légitimité d'Henri IV s'en serait trouvée fortement affaiblie.
Mais la loi salique, normalement, ça ne peut être qu'un homme, elle ne peut pas passer par la femme.
Voilà, mais les ligueurs contestaient
cette idée.
La faculté d'appliquer la loi salique dans la mesure où l'héritier du trône n'était pas catholique. Hein, c'est le vrai problème.
C'est-à-dire que ce qui va naître de ce conflit, c'est une nouvelle loi fondamentale qui est la loi de catholicité, qui était jusqu'à présent tacite parce qu'on n'avait jamais eu à se poser la question, mais désormais il est plus important d'être catholique que de passer par les femmes, les hommes.
Alors, il y a de nombreux édits qui jalonnent ces guerres de religion, avec ce titre magnifique, Jérémy Faura, le tombeau de la paix. Vous les avez étudiés jusqu'au massacre de la Saint-Barthélemy. On retient l'édit de Nantes. Qu'est-ce qui distingue l'édit de Nantes ?
Alors c'est une bonne question parce qu'on parle toujours de l'édit de Nantes, et c'est vrai que moi, comme j'ai travaillé sur les autres édits...
Il y a eu Amboise, Saint-Maur, Boulogne...
Il y en a plein, et surtout, on retient l'édit de Nantes parce qu'évidemment, les Français aiment beaucoup Henri IV, le roi de la poule au pot, et qu'il y a eu une intense propagande autour de... Bon, alors moi, je retiens Catherine de Médicis hein, et son chancelier Michel de l'Hospital, parce que ce sont les premiers à avoir fait ce type d'édit. Qu'est-ce que l'édit de Nantes ? Eh bien, c'est un édit de Catherine de Médicis qui a réussi. Mais c'est la même chose. C'est-à-dire que Henri IV bénéficie d'une conjoncture extraordinaire, et notamment, Hugues l'a dit, les Français sont épuisés. En 1598, les Français sont épuisés par presque 40 ans de guerre. Les récoltes sont ravagées. Les loups commencent à envahir les campagnes. Bref, quand Henri IV propose l'édit de Nantes, qui, au niveau de son contenu, ne dit rien de nouveau, quasiment rien de nouveau, par rapport à ce que dit l'édit d'Amboise de 1563. Mais le contexte est tout à fait différent, notamment économique. Alors oui, pour le dire très vite, le premier édit le plus original, c'est l'édit de janvier 1562, proposé par Catherine de Médicis. Deux points révolutionnaire, un, liberté de conscience. C'est-à-dire que, voilà, on invente ici un concept qui est amené à un grand avenir. Les protestants ne peuvent plus être poursuivis pour ce qu'ils pensent, pour ce qu'ils croient. Ils ne peuvent plus passer devant un tribunal pour ce qu'ils croient. Premier point. Deuxième point, liberté de culte. Alors, liberté de culte qui n'est pas totale, hein, bien sûr, c'est une liberté de culte limitée. Les protestants, par l'édit de janvier 1562, ont droit à des temples dans les faubourgs des villes, c'est-à-dire qu'on les écarte des centres-villes, notamment pour éviter les conflits avec les catholiques. Tous les édits de Catherine de Médicis, alors, chaque fois qu'il y a un édit, en général, une nouvelle guerre se déclenche, un édit, une guerre, un édit, une guerre. Elle fait l'édit d'Amboise en 1563, l'édit de Saint-Germain en 1570. Il y en a toute une série, jusqu'à l'édit de Nantes, qui ne dit rien de fondamentalement nouveau, mais le contexte est très différent.
Voilà. On lit souvent Hugues d'Aussy que le roi Henri IV, donc ancien Huguenot, a littéralement accordé l'édit à ses anciens coreligionnaires par un geste de pure bonté. C'est exact que de l'affirmer ?
Non, c'est très exagéré. En fait, on peut même dire que c'est totalement inexact. Henri IV aurait préféré que les réformés français, ses anciens coreligionnaires, se contentent finalement du contenu des édits précédents, que Jérémy vient d'évoquer. Par exemple, l'édit de Poitiers de 1577, voilà, qui était, on va dire, moyennement favorable aux Huguenots. Mais les Huguenots ont refusé de se contenter de cet édit, et ils ont engagé de véritables négociations avec Henri IV. Ils ont même usé de la menace pour le pousser à céder, et on se réunissait à l'époque... ce qu'on appelait les assemblées politiques des protestants français, qui étaient des instances délibératives, dans lesquelles siégeaient notamment les grands personnages de la noblesse protestante, et qui ont engagé un véritable dialogue avec la monarchie pendant presque 5 ans, entre 1593, la conversion d'Henri IV, et 1598, la signature de l'édit de Nantes. Et au cours de ce long dialogue, il y a eu d'interminables rebondissements, des négociations, et les protestants français ont même fait appréhender à Henri IV la possibilité de reprendre les armes. Et c'est parce qu'il voulait éviter une reprise des guerres civiles qu'il a fini par céder et par octroyer l'édit de Nantes. Donc en fait, c'est une sorte de contrat, cet édit de Nantes. C'est un traité qui a été conclu entre le roi de France et ses sujets protestants. Et s'il avait pu se passer de le leur concéder, il l'aurait fait.
Entre le roi de France et ses sujets protestants, comment réagissent les ligueurs ? Comment réagissent les ultra-catholiques ?
Ils sont fortement mécontents. Ils sont très mécontents, mais en même temps, il y a une autre idée qui a fait son chemin pendant ces longues années de guerre civile, c'est qu'il était finalement impossible de réduire les Huguenots par la guerre. On s'est rendu compte, au fil des guerres, que finalement, sur le plan militaire, les Huguenots ne perdraient pas. Et donc, par résignation, en quelque sorte, on a fini par aller vers cette solution pacifique qui n'a pas été acceptée comme étant une situation valide, si vous voulez, sur le plan religieux. Mais c'est une résignation provisoire, il faut bien entendre le terme de provisoire, face à l'incapacité de la monarchie à anéantir l'hérésie.
L'édit de Nantes, c'est la fin des guerres de religion, ça sonne la fin de ces guerres, c'est-à-dire que cet affrontement se termine à cette époque où il y aura après des prolongements, et on pense notamment à une autre guerre qui est la guerre de 30 ans, qui pour le coup est une guerre européenne.
Alors, si on a retenu 1598, c'est en raison, en grande partie, de la propagande autour d'Henri IV, le bon roi, qui ramène à la fois la poule dans chaque foyer français et la paix. Alors il fait la paix avec l'Espagne et puis il fait aussi l'édit de Nantes. Non, en réalité, les guerres de religion, et même en France, alors vous avez évoqué le conflit de la guerre de 30 ans, mais même en France, en réalité, dès la mort d'Henri IV en 1610, les conflits entre les grands capitaines protestants et la couronne vont reprendre. Et Nicolas Leroux, dernièrement, a proposé un manuel par lequel il fait terminer les guerres de religion en 1628, c'est-à-dire 30 ans après l'édit de Nantes.
C'est un peu comme la Révolution française, on ne sait plus quand est-ce qu'elle se termine. Édit perpétuel et irrévocable, et pourtant il y aura une révocation de l'édit de Nantes, Hugues de Scie.
En fait, la qualification de perpétuel et irrévocable, c'est un terme de ce qu'on appelle la diplomatique royale. La diplomatique royale, c'est la forme, l'aspect formel des édits. Le terme perpétuel et irrévocable donnait simplement une force plus importante à l'édit. Mais en fait, aucun édit n'était irrévocable. Le roi qui avait pris cet édit lui-même et tous ses successeurs avaient la faculté de le révoquer. Hein, et c'est ce qu'a fait Louis XIV en 1685. Donc, pendant bien longtemps, on a été aveuglé par ce qualificatif qui n'était pas du tout un gage de perpétuité, mais simplement l'expression de la volonté d'Henri IV de faire appliquer concrètement cet édit. Et Jérémy l'a étudié pour les édits antérieurs, une des grandes difficultés éprouvées par la couronne a toujours été de faire appliquer les édits de pacification. Il y avait l'édit et il y avait la réalité. Et elle était toujours relativement éloignée. Une des caractéristiques de l'édit de Nantes, c'est que ça a été l'un des édits de pacification les mieux appliqués, même s'il ne l'a pas été totalement.
La grande victoire, en quelque sorte, du camp protestant, Jérémy Foy, c'est le fait d'obtenir cette liberté de conscience, mais c'est une liberté qui est, au fond, privée.
Oui, vous avez bien résumé les choses. C'est une immense victoire. C'est une immense victoire, je pense, pour l'humanité, et pas que pour les protestants. Mais une des conséquences des guerres de religion, c'est qu'on va troquer cette liberté de conscience. Dans l'espace privé, chez soi, on peut croire ce qu'on veut, enfin ce qu'on veut. On peut être protestant ou catholique, on peut pas être bouddhiste. Hein. En échange de quoi, on se tait sur l'espace public. Et l'absolutisme, ou la structure politique de l'absolutisme, telle qu'elle sort des guerres de religion, c'est ça. C'est-à-dire, vous croyez ce que vous voulez, chez vous. La liberté de conscience, très bien, mais en privé. En revanche, l'espace public, on ne peut pas utiliser son esprit critique dans l'espace public. L'espace public est le monopole du roi. Et finalement, qu'est-ce que c'est que les Lumières au XVIIIe siècle, hein, c'est Emmanuel Kant qui le dit, c'est la revendication d'utiliser son esprit et d'utiliser sa critique dans l'espace public. Mais le XVIIe siècle, l'absolutisme du XVIIe siècle tel qu'il naît des guerres de religion, c'est cette idée que si l'on utilise sa liberté de conscience dans l'espace public, ça va conduire à la guerre. Pour sortir de la guerre, on se tait dans l'espace public et on fait ce qu'on veut chez soi.
Nous ne l'avons peut-être pas dit ou mal dit, mais il y a cette remise en cause de la figure royale qui est au fond une figure sacrée. Et ce côté sacré, on le voit dans la destruction, dans l'iconoclasme protestant, est remis en cause par les protestants.
Alors là, il faut nuancer un petit peu l'affirmation. Disons qu'il y a le courant officiel. Au sein du parti Huguenot, les chefs du parti Huguenot prennent toujours les armes au nom du roi, pour défendre le roi. Hein, ça, c'est la manière dont on justifie les prises d'armes, afin d'éviter d'être qualifiés de séditieux. Et puis la réalité, en arrière-plan, est qu'effectivement, quand on prend les armes pour se défendre contre les catholiques intransigeants, ben, en même temps, on prend aussi les armes forcément contre le roi, puisque l'armée catholique, c'est l'armée royale. Voilà, donc il y a cette espèce de dichotomie, et puis il y a des moments où cette opposition s'exprime de manière plus forte. On a parlé de l'iconoclasme. En 1562, par exemple, il y a des gisants royaux qui sont brisés, des statues royales qui sont brisées, le cœur du jeune François II qui est jeté aux chiens, etc. Donc il y a des actes violents qui portent atteinte à la dignité royale. Et puis aussi, il y a toute une série d'écrits qui sont publiés après la Saint-Barthélemy, qu'on appelle les écrits monarchomaques, qui énoncent des théories politiques qui sont révolutionnaires pour l'époque, qui vont contrairement à l'encontre des théories du pouvoir royal et qui prônent une souveraineté populaire, ce qui est quelque chose de tout à fait révolutionnaire. En d'autres termes, il y a un double contrat, pour faire très simple. Le peuple reçoit le pouvoir de Dieu Et c'est le peuple, ensuite, qui confère le pouvoir au roi, par une sorte d'élection. Donc ça, c'était vraiment révolutionnaire. C'est un courant marginal de la pensée politique huguenote que les chefs huguenots n'ont jamais accrédité. Et d'ailleurs, les auteurs de ces textes ont généralement pas signé leurs œuvres, les ont couverts de l'anonymat. Mais c'est quand même intéressant de remarquer que ces courants ont pu naître.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette idée de séparation de l'Église et de l'État? Vous utilisez dans le livre l'expression d'homme dissocié. Que signifie cette expression?
Alors bon, séparation de l'Église et de l'État, non, on ne peut pas aller jusque-là. Le terme qu'on emploie plus volontiers, c'est autonomisation de la raison politique, c'est-à-dire que l'État, le roi de France, poursuit des buts qui ne sont plus exactement les mêmes que les Églises. Le roi a pour but le bien-être de ses citoyens, les Églises ont pour but le salut de leurs fidèles. Alors qu'au Moyen-Âge, par exemple, ces deux buts pouvaient être superposables, c'est-à-dire que le roi de France pouvait avoir en tête qu'il lui revenait de contribuer au salut de ses sujets. Les guerres de religion, c'est un moment où on accepte que un officier soit huguenot, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre une compétence professionnelle, on est conseiller au Parlement de Paris, on a une compétence professionnelle, et que cette compétence professionnelle n'entame pas n'empiète pas sur la religion. On peut être huguenot et conseiller au Parlement de Paris. Donc l'homme dissocié, c'est en partie ça. C'est-à-dire c'est l'homme qui est différent dans l'espace public et dans l'espace privé. On a un homme qui, en privé, peut être huguenot, en privé peut critiquer, mais qui, dans l'espace public, doit se taire. Et l'absolutisme, c'est ça. C'est le mutisme dans l'espace public. Hugues, juste sur un point, on parlait des monarchomaques. Ce qui est très intéressant avec les monarchomaques, c'est cette pensée du pacte politique. La pensée que le roi de France doit remplir un certain nombre d'éléments du contrat, et s'il ne les remplit pas, on peut le renverser. Cette pensée qui naît dans les rangs protestants, progressivement, elle est récupérée et elle passe du côté catholique. C'est-à-dire que ce sont les ligueurs qui, dans les années 1590, disent « ce roi qui est un roi hérétique » ne remplit pas le contrat et on a le droit de le destituer, ou plus, on a le droit de le tuer. Et vous savez qu'à deux reprises, quand même, les catholiques tuent, des catholiques tuent un roi de France. 1589 avec Henri III,
et 1610
avec Henri IV.
Un dernier mot.
Ouais, une des grandes évolutions, en fait, de la période, c'est que l'on reconnaît, finalement, qu'on peut être à la fois protestant et bon sujet du roi de France. Et c'est ça, l'édit de Nantes. L'édit de Nantes, c'est reconnaître qu'il y a une distinction entre le citoyen et le chrétien.
Eh bien, merci à tous les deux pour votre pédagogie, parce que c'est un sujet ô combien complexe. Jérémy Foy, Le tombeau de la paix, une histoire des édits de pacification, 1560-1572, paru aux presses universitaires de Limoges. Vous avez signé aussi avec le dessinateur Pochep, Sacrée guerre, donc de Catherine de Médicis à Henri IV, à la fois une bande dessinée, et le tout est muni d'un cahier explicatif et aussi très pédagogique. Hugues Dossy, vous avez publié entre autres Le Parti huguenot, que vous pouvez voir à l'écran, donc un livre paru chez Droz en 2014, donc Le Parti huguenot, chronique d'une désillusion. Et pour préparer cette émission, eh bien, j'ai utilisé aussi ce livre qui est un incontournable, que vous connaissez bien, donc Arlette Joanna, Jacqueline Boucher, Dominique Bilogui et Guy Letiec, Histoire et dictionnaire des guerres de religion, paru dans la collection bouquins des éditions Robert Laffont. Il me reste à vous remercier, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Rendez-vous sur ktotv.com pour voir toutes les anciennes émissions de Risque de l'Histoire. Et si vous voulez entretenir votre passion de l'histoire, vous pouvez aussi vous rendre sur le site storiavoce.com. Merci beaucoup et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Risque de l'Histoire.
Écoutez KTO Radio partout en France sur le DAB+ et dans le monde entier sur Internet. Catéo Radio, il est 17h.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous de musique liturgique. Bienvenue sur Point d'Orgue, vous êtes ici, chez vous. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro consacré aux merveilles de la musique sacrée. Et aujourd'hui, nous allons continuer le voyage magique que nous avions débuté la semaine dernière sur la création contemporaine en observant trois nouveaux compositeurs, trois nouvelles œuvres absolument extraordinaires, très différentes les unes des autres, mais qui là aussi nous prouvent que le génie n'est pas encore mort et que dans nos églises, il peut y avoir encore des merveilles, des choses totalement totalement hors du commun. Et on va commencer sans plus attendre par l'un de mes compositeurs préférés. C'est presque un running gag, donc pardon si vous ne l'aimez pas, mais bon, après tout, comme c'est moi qui dirige, eh bien, je me fais plaisir et je vais vous parler de Arvo Pärt, immense compositeur estonien, qui est peut-être l'un des plus grands compositeurs actuels. Il est né en 1935 et il est considéré comme le père, enfin l'un des grands-pères, des grands chantres, en tout cas, de la musique minimaliste dans la musique classique, et notamment avec la création d'un style tout à fait particulier, le style tintinnambulé qu'il a créé lui-même, qui est un procédé de composition musicale et une technique d'écriture qui est associé donc à ce mouvement minimaliste, comme je vous le disais. Et en fait, ça signifie littéralement « son de clochette », en raison des tintinnabules, vous savez, ces petites clochettes que l'on a dans les basiliques catholiques. Et alors, la technique musicale de ce style tintinnambuli, c'est une diaphonie, un ursatz, ou noyau fondamental, qui est d'un nouveau genre, où en fait, vous avez deux voix qui se joignent pour former quelque chose d'indissociable. Elle est fondée sur des couples de notes construites l'une contre l'autre, et n'existant que par la relation de l'une à l'autre, cette diaphonie forme l'élément le plus petit et le plus important de la tintinnabulation. Donc ça, c'est ce que nous dit le compositeur lui-même. Vous allez très vite comprendre ce dont il s'agit avec l'écoute de l'un de ses très très grands morceaux qui est son Magnificat, une grande prose méditative de la prière que vous connaissez certainement tous, avec ses envolées, ses chœurs si extraordinaires qui viennent apporter tant de musique, avec ses envolées notamment des voix de soprane qui sont sublimées par tous les chœurs de basse, qui viennent faire que les sons effectivement s'entrechoquent dans ce fameux style tintinnambuli, avec ses voix qui se rejoignent, avec ses dissonances qui viennent éclore de notes harmoniques totalement extraordinaires et surhumaines. Découvrez donc ce Magnificat de Arvo Pärt, un véritable chef-d'œuvre.
Thank you. Merci.